morning edition from NPR News.
Let me teach some people how to
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, on est heureux de défendre un film qui sort demain. Ça s'appelle Camille, comme Camille Lepage, cette jeune photographe de 26 ans morte en Centrafrique en 2014. C'est son histoire qui est racontée ces derniers mois, mais surtout aussi son rapport à la Centrafrique, ce pays à l'époque déchiré par des massacres, son rapport au journalisme aussi. On y vient tout de suite. Le bruit du monde est à Lesbos ce soir. Le camp de migrants est en train de devenir un immense bidonville. La Grèce est débordée, l'Europe le sait. Et puis Amélie Perrier nous expliquera pourquoi un film d'animation est interdit au Vietnam et comment ça se passe. Un match de qualification pour la Coupe du Monde entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. 18h50, passons genre dans le monde avec le coming out d'un athlète raconté par Julia Foy. C'est une publicité belge pour un hamburger qui a fait long feu. 18h55, le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four, ou comment le Brexit, de fait, est déjà en place, a déjà commencé de l'autre côté de la Manche. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Boris Lochkin.
Bonsoir.
Et bonsoir Nina Meurice.
Bonsoir.
Merci à tous les deux d'être avec nous. On a déjà eu l'occasion de parler un peu de votre fille Camille qui sort donc demain mercredi. On l'a fait avec Michael Zumstein jeudi lorsque nous étions à Bayeux, qui a servi de consultant photo. Vous nous raconterez d'ailleurs comment ça s'est passé. Qui a joué aussi d'ailleurs un petit peu. Camille, je le disais, c'est cette jeune photographe morte en Centrafrique en 2014. Elle couvrait la Centrafrique qui était en plein chaos à l'époque. Boris Lochkin, vous qui réalisez ce film, Nina Meurice, vous êtes Camille. D'abord, qu'est-ce qui vous y emmène? Parce que j'imagine qu'au départ, au fond, c'est d'abord quelque chose qu'on lit dans le journal, la mort de Camille Lepage.
Oui, moi, ce qui m'amène à faire ce film, c'est Camille elle-même, parce qu'elle est spéciale. Je pense, comme tous les cinéastes, j'ai des idées derrière, des idées qui traînent comme ça. Ça fait un moment que je réfléchissais à faire un film sur les reporters de guerre. Aussi, un moment que je réfléchissais à faire un film sur un conflit africain. Mais parfois, on réfléchit longtemps et on n'en fait rien. Et puis, tout d'un coup, je découvre l'histoire de Camille et je suis sûr que c'est ça que je dois faire.
Et on y reviendra dans un instant. Moi, j'ai lu hier, dans la dernière couverture de Libé, c'était Marie-Vonne Lepage qui était mise en valeur et qui disait, moi, au début, je voulais pas qu'on y touche.
Mais
en
évidemment.
Fait, à cette histoire, bien sûr. Parce qu'en plus, vous arrivez très tôt, vous arrivez 6 mois après.
Oui,
c'est un laps de temps très court.
Oui, c'est court. Et c'est vrai qu'en France, surtout, on n'a pas tellement l'habitude de faire des films sur l'histoire aussi récente.
J'allais dire.
Mais voilà, j'ai pris beaucoup, beaucoup de gants pour aller parler à Marie-Vonne et puis aussi à Guy et Adrien, donc la famille Lepage. Parce que moi-même, ça me semblait terrible de leur demander ça. Et c'est vrai que c'était difficile pour la maman de Camille d'imaginer qu'un jour, sa fille serait représentée à l'écran par un autre visage, par une autre voix. Je me souviens qu'elle me parlait de la voix. Voilà, mais c'était au début, depuis il y a quand même pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts.
Et elle en est contente.
Et je crois qu'elle en est très contente.
Ouais. Nina Meurice, là-dessus, évidemment qu'un rôle, ça se travaille, c'est votre métier, mais c'est tout à fait autre chose quand on travaille quelqu'un qui, effectivement, est encore tellement dans les esprits, dont la famille est encore, évidemment, très présente. C'est très particulier, j'imagine, non?
C'est vrai, d'habitude, on fait le travail d'inventer le passé d'un personnage qui n'en a pas, et là, c'était l'inverse, en fait. J'avais un matériel fou d'amis, de proches, de collègues, et c'était passionnant, justement, de pouvoir travailler avec tous ces gens qui l'ont connu, qui avaient des points de vue différents, et en même temps... tous unanimement ce souvenir d'une personne vivante, souriante, très engagée. Et c'était une aventure bouleversante.
Est-ce que vous avez compris, en l'incarnant, pourquoi elle était si bien dans ce pays, au fond? Pourquoi elle y était tellement attachée?
Je pense que c'est la force de vie de cette jeunesse qui, malgré tous les événements qui s'y passent, sont combatifs et... Et en tout cas, oui, c'est aussi ce qui se dégage du pays, mais j'ai l'impression qu'elle se cherchait autant qu'elle cherchait à comprendre le pays et les gens qui l'habitaient, et que elle a réussi à mettre en lumière ce qu'on donne pas forcément de prime abord d'image de la Centrafrique, qui est la force de vie de la jeunesse centrafricaine.
C'est compliqué, Boris Lochkin, de faire un film sur quelqu'un effectivement qui est mort depuis si récemment, qui a encore effectivement tout ce bagage familial qui est là, mais c'est compliqué aussi de travailler sur un pays qui n'a pas du tout terminer non plus l'histoire qui nous amène là. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des choses qui sont complexes, en fait, dans un film comme le vôtre?
Oui, quand on s'empare d'une histoire vraie, à la fois, c'est du cinéma, donc il faut y amener de la fiction, il faut un vrai travail de scénario pour que le scénario nous emporte vraiment, et en même temps, il y a des choses sur lesquelles des vérités sur lesquelles on peut pas transiger. Et pour moi, c'était une triple vérité. Il y avait la vérité de Camille, cette jeune femme très remarquable, très lumineuse, qui avait quelque chose de spécial. Il fallait comprendre ça et essayer de le rendre. Il y avait la vérité du métier, ce métier de photojournaliste. J'avais très peur. Tous les photographes que j'ai rencontrés m'avaient dit « Oh là là, les films de cinéma, c'est toujours nul, ils nous montrent toujours mal. »
Bien sûr.
Les acteurs savent pas prendre de photos, ça se voit tout de suite.
On discutait avec Michael Zumstein, on est dans l'espèce de caricature, il y a trop de poches dans les vestes.
Voilà.
Ils sont tous barbus.
Donc j'ai fait très attention à essayer de décrire justement ce métier de photojournaliste. Pour le moment, je crois que d'après les retours que j'ai, ils sont contents. Et puis enfin... Vous avez raison de le dire, le pays, c'est un pays qui... C'est pas une histoire terminée, les événements qu'on décrit sont très récents, tous les Centrafricains sont d'une manière de près, de loin, touchés par cette tragédie, donc on peut pas faire n'importe quoi avec ça, on peut pas raconter ça à l'emporte-pièce, trahir les événements, les déformer, les retourner.
Vous avez tourné là-bas, vous vouliez tourner là-bas, j'ai lu que vous aviez des plans B s'il avait fallu, mais
non,
vous
j'avais
vouliez
pas de plan B.
Vraiment...
J'aurais dû avoir un plan B, mais j'avoue que je n'avais pas les ressources psychologiques pour vraiment y travailler, parce que pour moi, c'était impensable, en fait.
Mais du coup, est-ce que, alors, avec des Centrafricains, certains qui sont acteurs, d'autres qui le sont pas, est-ce que c'est compliqué de leur faire jouer? D'abord, qu'est-ce qu'ils jouent? Est-ce que vous leur avez dit quoi? J'imagine qu'on dit pas. Alors, qui a été Balaka? Qui a été Séléka? Qui a été anti-Balaka? Comment on les met dans cette situation? Parce que vous leur faites faire des trucs terribles. Il y a eu des massacres pendant cette période-là. Donc, il y a des reconstitutions de ces massacres-là. À un moment, est-ce que eux vous disent, attendez, moi, je veux pas jouer ça, en fait. Parce que c'est trop proche de l'histoire.
Ça peut arriver, il y a eu quelques... Alors, d'une manière générale, pour répondre quand même, les jeunes qui jouent les anti-balakas du film ne sont pas des anti-balakas ou des ex-anti-balakas. Pareil pour les Séléka. La plupart des gens qui jouent dans le film sont des étudiants de Bangui qui sont venus faire ça avec beaucoup d'enthousiasme, de plaisir à faire du cinéma. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans ce pays où la crise est récente, où la tragédie est proche. Et donc, parfois, il y a comme ça des sortes de raccourcis qui se font. Par exemple, quand on est en train de tourner le pillage de la mosquée Fou et tout d'un coup, mon assistant caméra s'effondre en larmes parce qu'il est musulman, parce que son père, imam, a été molesté pendant les événements et tourner cette scène de la mosquée, ça lui rappelle ça, il s'effondre en larmes. Mais on arrête le tournage, on prend du temps pour lui et puis on s'y remet après.
Un tout petit extrait, tiens. J'allais dire ça va venir, ça crie, mais en même temps, vous allez voir, il y a des gens qui parlent. Mais peu importe, on est dans une scène de massacre là, et je peux comprendre que ça doit être compliqué de dire, bah alors maintenant tu vas lui couper un bras, parce que c'est aussi se mettre en face de ce qu'a été cette période-là pour les Centrafricains. Et au fond, j'imagine qu'en creux, ma question c'est, est-ce que ça leur fait du bien de le voir en fiction, selon vous, pour pouvoir mieux l'absorber après?
Alors je pense que c'est compliqué. Parce que effectivement, cette crise, ces événements sont très proches. Je pense, moi, malgré tout, malgré cette complication, je pense que ça fait partie du processus de sortir de la crise que de faire ce travail de mémoire. Et donc, je pense que c'est important que cette crise centrafricaine soit racontée. Je la raconte, moi, à ma manière, à travers le personnage de Camille. Je pense que c'est important que, dans l'avenir, des Centrafricains eux-mêmes s'emparent de ça pour leur raconter ça, que des cinéastes centrafricains continuent ce travail.
Et ce que vous faites, d'ailleurs, vous travaillez, vous, avec des cinéastes centrafricains. Quand vous êtes au milieu, vous, Nina Meurice, qui découvriez la Centrafrique, en fait, d'abord, est-ce qu'on croise beaucoup de gens qui ont rencontré Camille Lepage avant?
Oui, pas mal, ouais. C'est arrivé souvent que les gens arrivent et toujours en parlent avec une espèce de grande joie. C'était quelqu'un qui a marqué beaucoup là-bas parce qu'elle a pris le temps. Elle a pris le temps d'habiter là-bas et de les rencontrer, et les gens ont un souvenir très marquant d'elle. Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la projection là-bas, par exemple? Comment ça a été reçu, Boris Lochkine? Je vous poserai la question aussi, mais votre sentiment à vous, Nina Meurice, quand le film a été projeté à Bangui?
C'était un écart incroyable entre les projections de Locarno en extérieur et les projections à Bangui, qui était un espèce de spectacle vivant, finalement, où c'était à la fois très réactif sur le fait de se voir à l'écran, de se reconnaître, de aussi rire des fautes de français ou des situations, et en même temps on sentait beaucoup d'émotions à voir le film, et c'était très mélangé et très fort.
Leïla courait pour aller s'interposer.
Il l'a même traité de chienne.
Elle dit, je m'appelle Leïla. Comment
c'est
est-ce que vous pouvez, voilà, comment est-ce que vous pouvez me traiter de chienne? Et ils l'ont abattu.
Il ne pourra jamais avoir la paix dans ce pays
tant que les musulmans sont encore là.
Il a raison. Terminer. On doit se battre
on doit tout nettoyer.
Attends, qu'est-ce que tu dis? C'est aussi leur pays, aux musulmans, ils sont nés ici.
Non, ils sont tous pareils. On les prend, on les accueille et regarde ce qu'ils font. Mais on va pas rester là.
Et alors quoi? Tu vas faire quoi? C'est ça ta solution? Mais réfléchis deux secondes, Cyril.
Je vais faire une leçon. Voilà, c'est ça le problème avec vous. Vous vous croyez toujours ici chez vous. Ici là, vous n'êtes pas chez vous. Ok? C'est fini la colonisation.
Mais c'est quoi le rapport de quoi tu parles là?
Dès qu'il y a un enfant, vous le cassez. Vous avez tué Bouganda. Vous avez chassé David Dako. Et Bokassa, il vous gênait, hein?
Et Patassé aussi.
Vous dites que c'est le chaos, mais c'est vous qui sèmez le chaos.
C'est vous c'est qui? Vous c'est moi?
Tu te crois meilleur que les autres? Hein? Tu es comme eux. Tout ce qui t'intéresse, c'est venir faire tes photos. Tu viens, tu prends et tu pars.
Il y a deux choses qui m'intéressent dans cet extrait. D'abord, on sent bien l'implication qui était la sienne, effectivement, à Camille Lepage, qui bataille aussi sur le fond avec les gens qu'elle rencontre. Et puis, il y a aussi toute cette difficulté de pas seulement, quand on raconte cet épisode de la Centrafrique, en faire un conflit religieux, un épisode religieux, en fait, Boris Lojkin.
Oui, c'est pas du tout une guerre de religion, la crise centrafricaine, même si à un moment donné, ça devient un conflit intercommunautaire, même si à un moment donné il y a des sortes de chasses aux musulmans comme ça, mais c'est pas du tout une guerre de religion. C'est avant tout, on pourrait dire, c'est une guerre de pauvres en fait.
Est-ce qu'on le comprend mieux son conflit, j'allais dire, quand on voit un film de fiction qui raconte son conflit en fait? Est-ce que vous avez le sentiment que certains, avec le recul, se sont mis à le voir différemment parce que vous lui aviez donné une autre image ou pas?
J'espère. En tout cas, je crois qu'il y avait une grande fierté dans le public centrafricain de voir leur histoire représentée. C'est-à-dire qu'ils ont tellement l'habitude d'avoir le sentiment d'être traités comme comme quantité négligeable, que personne ne s'intéresse à eux, que c'est un petit pays lointain, que c'est, voilà, ou alors que des journalistes passent vite fait et racontent ça un peu vite fait aussi. Que le fait qu'il y a un film de cinéma qui s'empare de leur histoire, qui mette ça au premier plan, je crois que c'était, il y a une grande fierté avant.
Et que
avant
ce soit de la fiction même en fait au fond, c'est-à-dire qu'on en fasse une histoire, pas seulement un documentaire qui raconte des horreurs, mais qu'on en fasse une histoire. Ça veut dire qu'on peut raconter une histoire avec la Centrafrique.
On peut raconter une histoire avec la Centrafrique. On peut vraiment faire du cinéma là-bas. Oui.
Qu'est-ce qui les étudiants par exemple des ateliers Varan avec lesquels vous travaillez, vous que vous formez à la réalisation, qu'est-ce qu'ils ont envie de raconter de leur pays? D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils en disent? Qu'est-ce qu'il en sort de leur travail à eux?
Alors quand eux ont fait des films documentaires avec nous, eux décrivent de manière beaucoup plus simple en fait leur quotidien. En fait, ils décrivent la société centrafricaine, ils décrivent les galères pour parce que chacun vit avec très peu de choses. On se réveille le matin, on ne sait pas encore comment on va faire bouillir la marmite le soir. Et c'est toujours dans tous leurs films, il y a à la fois ce mélange entre toutes ces conditions de vie très difficiles et en même temps un humour qui traverse tout ça. C'est-à-dire un humour qui dit aussi cette force de vie qui traverse tout ça, qui fait que même si la vie est incroyablement difficile, surtout vu d'ici pour nous qui avons tellement de confort en comparaison, que voilà, c'est plein de galères et en même temps tout ça raconté avec une joie, avec une capacité de distanciation assez incroyable.
Et comment vous diriez qu'il va ce pays aujourd'hui, vous qui l'avez beaucoup fréquenté, j'allais dire sur une échelle de 0 à 10, comment il va aujourd'hui par rapport à cette période qui a été la plus terrible et la plus chaotique?
Alors il va mieux qu'en 2013-2014, c'est sûr. Est-ce qu'il va mieux qu'en 2016, fin 2016, quand Sangaré s'est interrompu, que la France que l'armée française a quitté le pays? Je suis pas sûr. La mission des Nations Unies est très critiquée. Il y a encore de larges parties du territoire, peut-être les trois quarts du territoire, qui sont tenus en fait par les groupes armés et pas par le gouvernement. Il y a des accords de paix qui ont été signés à Khartoum. On espère que ça va marcher, mais tout ça est très 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 fragile.
En le recevant jeudi dernier, j'ai posé à Michael Zumstein une question qui n'a aucun sens, mais j'ai quand même envie de vous la reposer aussi. Je lui ai demandé, selon lui, quel journaliste, quel documentariste, je ne sais pas, parce qu'au fond, il était plus documentariste peut-être que reporter, Camille Lepage, quel serait devenu aujourd'hui, en fait? Et surtout, si, au fond, cette expérience l'aurait endurci, est-ce que ce serait devenu, selon vous, une journaliste endurcie ou quelqu'un
jamais
toujours à part, en fait? Mais non, mais voilà.
Fabienne Synthèse, jamais de la vie.
Très bien, Boris Lojkin, j'ai bien compris, jamais de la vie. Mais endurci, ce n'est pas forcément un défaut, vous me direz.
Non, pardon, je réagis comme ça un peu, mais je défends mon personnage.
Mais je vous en prie. compris.
Non, je crois que, évidemment, Camille, moi, je n'ai cessé depuis ces 5 dernières années de me poser cette question, de demander qu'est-ce qu'elle serait devenue si elle avait vécu. Ce à quoi j'ai envie de croire, c'est que évidemment elle aurait changé, évidemment elle aurait mûri, mais qu'elle ne serait pas pour autant devenue cynique, blasée, et qu'elle aurait continué à croire à des choses. Après, alors, sans doute elle aurait travaillé différemment. Déjà, elle commençait à travailler différemment, c'est-à-dire ne plus faire du news, mais faire de la photographie documentaire.
C'est pour ça que je pose la question.
Travailler au long cours, travailler au long cours, mener des vrais projets photos dans la durée, faire voilà, ne pas être dépendante des aléas de l'actualité en fait.
Nina Meurys, puisque vous avez appris à faire des photos comme une vraie photojournaliste, est-ce que vous en faites encore ?
Non, j'arrive plus à faire, mais ça va revenir, j'espère.
En tout cas, vous avez appris, pareil, pendant les manifs, et notamment les manifs loi travail, etc., à manier un appareil, à pas justement être dans la caricature.
Ouais, ça faisait partie des bizutages des photographes que j'ai suivis, qui avaient envie que je me confronte un peu à une violence qui a évidemment rien à voir, mais c'était un peu leur petit bizutage, ça a bien marché.
Donc ne jouez pas Marie Stuart, vous risquerez de vous faire couper la tête. Merci beaucoup.
Merci, je prends note.
Merci beaucoup.
Merci vraiment, le film s'appelle Camille, il sort demain mercredi. Merci mille fois.
Le 18-20, Fabienne Synthès, sur France Inter.
Le 18-20, ça continue avec le bruit du monde qui est à Lesbos en Grèce. Ce soir, un camp de migrants devenu un vaste bidonville. La Grèce est débordée, évidemment, l'Europe le sait. Amélie Perrier qui va chercher le bruit du monde sous les radars avec un match de qualification pour la Coupe du Monde de foot qui, là, pour le coup, est passé sous les radars.
Historique match entre la Corée du Sud et la Corée du Nord.
Et on n'a pas le score, si
0-0, si j'ai formidable. Le score, mais pas d'image, blackout.
Allez, passons genre dans le monde. Et Julia Foyce avec un coming out très rare, Julia.
Oui, celui de Karen Clement, athlète américain, double médaillé olympique, mon champion de la semaine.
Le monde à l'envers, Jean-Marc Faux, bonsoir.
Hello.
Jean-Marc. Alors le Brexit a commencé, donc on y est d'ailleurs.
Oui, enfin, il paraît qu'il approche, enfin, tout ça est ridicule, oui, il a déjà commencé en fait.
Allez, à tout de suite, dans Un jour dans le monde, le tour s'est bien vendu, c'est ridicule Jean-Marc, le tour de la planète n'est pas fini, restez avec nous. Voici Haïm et Summer Girl. I see the kids, they're running on by. In the summer dress with the sunshine smile. I hear the birds, they're whistling in the trees. Oh, it's like they know how I feel. Busy bee watching the world, sit at the side of the curb. You're busy bee watching the world singing. North Sea. Life's just beginning, I'm breaking free. You're on the ninth street with the sun on my back. Yeah, yeah. Knock for Uber, come kill some time on the hair and drag. Busy bee watching the world, sitting at the side of the curb. You're busy bee watching the world, singing. This is how it feels when a good day comes along.
Sometime on the hair and crack. Busy bee watching the world.
Le bruit du monde est à Lesbos ce soir. Nous sommes dans le camp, dans ce camp immense, devenu aussi le symbole d'une nouvelle crise des réfugiés vécue par la Grèce. Les arrivées se multiplient depuis le mois de juin. À Lesbos, un millier de personnes débarquent chaque semaine. C'est 3 fois plus qu'à l'année dernière. Résultat, 14 000 personnes vivent aujourd'hui dans ce fameux camp de Moria, prévu pour accueillir 3000 personnes, un immense bidonville qui grandit jour après jour dans les champs d'oliviers sur la colline alentour aussi. Des conditions de vie, des conditions d'hygiène déplorables et des réfugiés de moins en moins en sécurité. C'est Cécile de Kervoisdoué qui vous y emmène.
Quand tu quittes ton pays, tu crois que c'est pour le meilleur, que tu vas être en sécurité. Mais non, c'est très dur ici, à Moria. Tu as des familles nombreuses qui dorment dans une tente minuscule et des hommes qui dorment carrément à ciel ouvert. On est des êtres humains, pas des animaux.
Anita a 25 ans. Camerounaise diplômée de sciences politiques, elle a fui son pays parce qu'elle milite pour les droits des Camerounais anglophones, victimes de persécutions. Après 11 mois dans le camp de Moria, elle vient tout juste d'obtenir le droit d'asile. Elle revient porter des repas et des médicaments pour ses copines du camp parce que d'expérience, elle sait combien être une femme seule à Moria, et surtout une femme noire, c'est très dangereux.
Être une femme noire, c'est difficile ici. Parce que par exemple, les hommes afghans, ils ne vous respectent pas. Et la plupart d'entre eux pensent qu'une femme noire n'est bonne que pour le sexe. Et comme ils s'ennuient, ça leur fait faire n'importe quoi. Alors, si vous revenez la nuit, vers 10 ou 11 heures du soir, vous les verrez, ils sont dehors. Ils boivent et ils deviennent violents. Alors les femmes ne sont pas en sécurité. S'ils vous voient, ils vous harcèlent. Certains d'entre eux vous attaquent et la police n'est pas là.
Il n'y a pas que les femmes qui ont peur à Moria. Les hommes aussi craignent pour leur sécurité. C'est ce que me confie Ilmi, un jeune Somalien de 28 ans. Il est arrivé il y a 2 mois dans l'afflux de l'été et il n'a pas de tente. Alors il dort, à même la terre, dans le champ d'olivier qui borde le camp. Quand je le rencontre, il termine sa lessive.
Vous êtes en train de faire votre lessive ?
Il y a beaucoup de drogues. Il y a héroïne, marijuana, il y a des coques, cocaïne. Les Afghans vendent ça. Et ils ont des armes blanches. Quand ils se bagarrent entre eux, quand ils boivent de l'alcool, j'ai peur. Si quelqu'un me tombe dessus de moi, il me tue.
Même inquiétude chez les Congolais de République démocratique du Congo qui représentent 3% des habitants de ce camp. Depuis plus de 4 mois, Paul et son frère s'entassent dans une tente avec leurs femmes et leurs enfants. Une tente entourée de ceux qu'ils appellent les Blancs, les Afghans et les Syriens, qui représentent eux les 3/4 des habitants de Moria. La plupart du temps, ces Congolais se cachent dans leur tente, sauf quand il faut faire la queue pour tenter de récupérer une ration de nourriture.
Et si vous mourrez, pour perdre ta vie, c'est facile, c'est comme bonjour. Il faut aller là-bas faire la file d'attente pour prendre et la manger. Vous pouvez faire 4 jours sans recevoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la file. Il faut lutter, c'est pas facile pour prendre à manger.
À cette violence s'ajoute la pluie qui fait sortir les serpents qui s'infiltrent dans les tentes. Il y a le manque d'eau potable, les sanitaires bondés, un toilette douche pour 100 personnes et le froid qui arrive. Alors partout dans le camp, les réfugiés posent cette même question à tous les Blancs qu'ils croisent.
Êtes-vous docteur ?
Car le gouvernement grec qui a réduit son budget santé n'a prévu qu'un médecin pour 5000 personnes à Moria. Des ONG comme Médecins Sans Frontières tentent de prendre le relais, mais c'est encore largement insuffisant. Devant les 2 dispensaires, les files d'attente durent 8 à 10 heures, sans toujours pouvoir voir un médecin. Et c'est ça le plus grand danger du camp, m'explique Anita, la Camerounaise.
J'ai une amie qui est morte ici, à cause du froid. Ça m'a dévastée. Il faut qu'ils augmentent le nombre de médecins, sérieusement. Mais peut-être qu'ils ne veulent pas dépenser plus. Ou peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de ce que nous avons traversé dans les zones de danger. Parfois même, ils pensent qu'on raconte des mensonges quand on dit qu'on a été violé. Mais la plupart des gens arrivent ici avec de réels problèmes.
Des problèmes que le temps n'améliore pas. Car contrairement à 2015, Moria n'est plus un camp de transit. C'est un camp européen qui retient les réfugiés pour les enregistrer et leur donner ou non le droit d'asile. Mais tous les services aujourd'hui sont débordés ou sous-dimensionnés. Près de la tente des Congolais, Oscar me raconte par exemple qu'il est là depuis plus de 4 mois, mais que son premier rendez-vous n'est pas prévu avant 2021. Et il sait déjà que quoi qu'il arrive, il va devoir recourir à la corruption.
« Pour sortir d'ici, il faut avoir la carte bleue. Et pour avoir la carte bleue, il y a des conditions, il faut être vulnérable. Mais des problèmes sérieux que vous avez, ou la vulnérabilité que vous avez, ils n'acceptent pas. C'est seulement ceux qui ont payé quelque chose, ils ont les papiers sûrs et certains. Donc en réalité, ici, nous demandons de l'aide. Famille, connaissances, sans leur aide, nous sommes foutus. Nous sommes foutus.
D'où cette question qu'Oscar me lance au moment de partir. Dites-moi, madame, les Européens, ils savent ce qui se passe ici, en Grèce ?
Ils le savent, mais que font-ils ? Cécile de Kervas-Doué pour le reportage, merci beaucoup. Le bruit du monde quand il passe sous les radars dans Un jour dans le monde, ça donne ça aussi. Amélie Perrier, vous nous emmenez dans un sous-marin, donc, parce qu'une guerre nucléaire se joue en ce moment en Arctique.
Dans les eaux glacées du pôle Nord, 5 sous-marins, plus d'une centaine d'avions, 200 lanceurs de missiles et 12 000 soldats russes participent à un exercice de grande envergure. Le Kremlin teste ses forces nucléaires. Les autorités ont demandé à tous les navires civils de rester à l'écart jusqu'à la fin de la semaine, car les sous-marins vont tirer des missiles balistiques et des missiles de croisière. Ils devraient atterrir sur deux bases, en mer de Barents, au-dessus de la Scandinavie, et tout à fait de l'autre côté de la Russie, à l'est, au Kamtchatka, la péninsule d'Extrême-Orient. Ces missiles vont donc traverser l'Arctique dans les deux sens, mais tout cela n'a rien de menaçant, assure les Russes, à commencer par le président Poutine. Voilà comment il le disait à son discours annuel de l'an dernier. La Russie ne menace personne, dit Poutine. Toutes nos actions dans la zone de sécurité sont exclusivement de nature défensive. Nous n'avons aucun intérêt pour la confrontation, dit Vladimir Poutine. Nous ne la voulons pas, surtout avec une superpuissance mondiale telle que les États-Unis. Alors, ce ne sont pas des menaces, c'est au moins de l'intimidation. Il y a 2 mois, une explosion dans une base militaire en Russie faisait craindre le pire. Des experts soupçonnant qu'elle était liée au développement du Burevestnik. C'est un missile à propulsion nucléaire invincible, s'est vanté Poutine au début de l'année. La Russie poursuit donc aujourd'hui son armement nucléaire au moment où les Nations Unies débattent de leur contrôle et à 2 ans de l'expiration du traité conclu entre Washington et Moscou pour limiter le nombre de lanceurs et d'ogives. La Russie veut le prolonger, les États-Unis laissent planer le doute pour l'instant.
Le bruit du monde ce soir, Amélie, c'est aussi celui d'un stade de foot en Corée.
En Corée du Sud, voilà ce que cela donne pour un simple match de championnat. Alors normalement c'est de la folie furieuse, hein, comme vous l'entendez en tribune. Pour une rencontre, ils sont chauds quand même. Pour une rencontre de l'équipe nationale, je vous laisse imaginer l'ambiance. Sauf que ce matin, la Corée du Sud n'a pas joué devant son public, mais chez son voisin, son ennemi historique, la Corée du Nord. Un choc inédit entre les deux Corées à Pyongyang, et pas du tout pour le symbole ou la gloire. C'était un match qualificatif pour le Mondial 2022. Je peux vous donner le score, 0-0, d'accord, mais je peux pas vous en diffuser un extrait car la Corée du Nord a refusé de retransmettre la rencontre en direct dans le stade Kim Il-sung. Pas de supporters sud-coréens ni de journalistes étrangers. La FIFA et la Confédération asiatique sont seuls autorisés à donner le score. Les fans de Corée du Sud devront attendre plusieurs jours avant de visionner ce match pour l'histoire. Si la Corée du Nord tient bien sa promesse de donner un DVD de la rencontre aux sud-coréens avant leur retour de l'autre côté du 38e
parallèle.
Un DVD quand même, on s'est modernisé en Corée du Nord. Les joueurs et le staff ont été obligés de laisser leur téléphone portable avant d'entrer en territoire nord-coréen. Car on est bien loin du climat de détente de l'an dernier aux Jeux Olympiques en Corée du Sud, où des dirigeants nord-coréens avaient été invités, où les délégations des deux Corées avaient défilé ensemble sous le drapeau de l'unification. C'était lors de la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver. Les relations se sont tendues à nouveau depuis. Et ce blackout sur la rencontre ne va pas du tout dans le sens de l'apaisement, surtout pour les supporters sud-coréens.
Certes non. Quand la géopolitique se mêle de sport, Amélie, quand elle se mêle aussi de dessins animés, ceux de nos enfants.
Oui, c'est le nouveau film d'animation de DreamWorks qui ne plaît pas du tout au Vietnam. Son titre, c'est Abominable.
You need to spend more time here with your family.
Where are you going?
Be back before dinner.
Be careful out there.
No boy.
Got it covered. Bye. I just want to escape.
Abominable. C'est l'histoire d'une jeune fille chinoise. Elle va se lancer dans un long voyage pour amener un yéti magique nommé Everest dans l'Himalaya. C'est une collaboration avec un studio de Shanghai. Le problème, eh bien, dans l'une des scènes au début, la petite fille regarde une carte de la Chine où l'on voit une ligne en forme de U, en pointillé, qui va de la côte sud de la Chine et qui entoure presque toute la mer de Chine méridionale. C'est en fait une région revendiquée par la Chine car elle est très riche en minéraux, mais la justice internationale lui a donné tort. Et quatre autres pays réclament cette zone, dont le Vietnam. Alors, Vietnam, tant pis pour les enfants, mais le film Abominable, Abominable, ouais, non, je vais pas tenter plus loin, elle a été retirée de tous les cinémas d'une grande chaîne du pays.
Abominable.
Voilà, ah non, mais c'est, enfin, pas, c'est pas facile.
Si difficile.
Non, allez, en fin de journée, c'est compliqué.
Merci beaucoup, Amélie. Revenez demain avec quelques bonnes nouvelles, allez savoir. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on écouterait Haïm et Summer Girl, mais on n'a pas du tout écouté ça, donc voici Haïm et Summer Girl.
Shoulder, I need you to understand. These are the earthquake drills that we ran under the freeway overpass. The tears behind your dark sunglasses, the fears inside your heart's deepest gashes. Walk aside.
Voilà, c'est bien elle donc, Haïm, la Summer Girl, sauf que c'est l'automne. Hein. Allez, mesdames, messieurs et tout autre genre, voici Julia Foyce.
France Inter. Un jour dans le monde.
Julia, chaque semaine, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. On commence par votre homme de la semaine.
Il s'appelle Keron Clement, il est américain, double médaillé olympique, l'or aux 4x400 mètres en 2008 et l'or encore aux 400 mètres à Rio en 2016. Mais ça, à la rigueur, on va dire qu'on s'en fout. C'est-à-dire que je ne viens pas tout à fait chez vous pour parler de sport, Fabienne.
Non, non, mais bref, oui.
Keron Clement était invité vendredi, certainement. Sait-on jamais. Keron Clement était invité vendredi à inaugurer une piste arc-en-ciel, Gay Friendly, donc au Los Angeles City College. C'était la journée internationale du coming out. Il a fait le sien. J'en ai assez de vivre dans l'ombre. J'aime les hommes. Et aujourd'hui, à 30 ans, je me moque de ce qu'on peut en penser. Voilà ce qu'il a déclaré. Courageux, tant ils sont rares, les sportifs encore en activité à vivre leur homosexualité en pleine lumière. La pression homophobe, même aux États-Unis, même en 2019, reste aussi pernicieuse que réelle. Donc au moment où on applaudit Keron Clement, on s'inquiète. En revanche, pour Mohsen Lorestani, chanteur à minette iranien ultra populaire dans les enceintes, ça donne ça.
«
pas du tout.
Ah, ok.
Écoutez, soyez un petit peu patient, je comprends que vous ayez envie. Normalement, ça va, ça devrait arriver. On devrait entendre sa voix dans pas très très longtemps. Je vais essayer de meubler en attendant. Tu vas, je continue, je me tais.
Là, je pense qu'on peut y aller, là, mais on a bien compris.
Je voudrais qu'on entende sa voix.
C'est-à-dire que...
Pour ça, je vais écouter prendre à la voix.
Il est bientôt 19h.
Allez, hop. Des messages... Ah ben voilà. Cet homme-là que vous entendez chanter a posté des messages sur un chat privé. Ces messages ont été interceptés et jugés immoraux. D'après l'agence de presse iranienne, il serait désormais poursuivi pour corruption sur Terre. Non, là-bas, on ne nomme même pas l'homosexualité. Circuler, rien à voir, ça n'existe pas. N'empêche que c'est toujours considéré comme un crime passible de la peine de mort.
Et on enchaîne, Julia, avec le chiffre de la semaine.
60 millions, c'est le nombre de filles et de femmes qui manquent à l'appel en Inde, victimes d'avortements sélectifs. Ouais, là-bas et dans un certain nombre de pays au monde, comment vous dire, mieux vaut naître garçon, c'est plus sûr.
L'image de la semaine, elle nous vient de Belgique.
C'est une publicité produite pour une chaîne de fast-food. Le dessin couleur vive, graphisme tranché, est une référence directe aux comics des années 50. Vous savez, cette époque où l'on pouvait encore frapper sa femme peinard sans qu'une horde de féminazies vous tombe dessus. Ouais, parce que la dame sur l'affichette, elle se prend un point dans la gueule, bien envoyé par son mari parce qu'elle ne lui avait pas ramené le bon burger. Très étrangement, dans un monde post-MeToo, le dessin n'a pas plu, mais alors pas du tout, ni aux consommateurs, ni aux médias, ni au gouvernement. À ce niveau de tollé, ça s'appelle un strike. Quelques heures à peine après avoir été mise en ligne sur les réseaux sociaux, la pub a été retirée avec ce commentaire « Nous voulions juste nous en prendre à ceux qui imitent nos hamburgers ». Ah bah oui, évidemment. Bah,
évidemment. Allez, on termine avec la manie de la semaine.
À force, c'est même une obsession. Est-ce que vous vous
c'est
souvenez
la vôtre. Bah oui, je m'en souviens.
C'est pas de ma faute. Moi, je relais l'information. Oui. Voilà. Vous vous souvenez du persil dans le vagin, oui. Censé réguler les cycles hormonaux. Jean-Marc, on s'en rappelle, on s'en souvient, voilà. De l'ail dans le vagin, lui aussi, censé nettoyer la flore ou du dentifrice sur le pénis, qui lui
aussi.
Soutenait les érections flageolantes. Ah bah oui, en général, on est assez égaux dans l'idée de génie. Et donc, dans la série, ça ne s'arrêtera jamais. Voici le chocolat fondu versé directement dans le vagin pour pimenter l'intime. Une pratique qui suscite tellement d'engouement outre-Manche que je vois très bien que vous avez honte tous les deux. J'ai l'impression de faire honte à mes parents.
Oh non.
Une pratique, même si vous avez que 6 mois de plus que moi, bref, une pratique qui suscite tellement d'engouement outre-Manche qu'une gynécologue britannique s'est fendue d'un cri d'alarme dans le Daily Star. Certes, le chocolat a des vertus aphrodisiaques, mais 1. À peine fondu, bon, ben ça brûle, en fait. 2. Tout élément extérieur introduit à l'intérieur de vous peut comporter des bactéries et donc introduire surtout un risque d'infection. Et c'est valable pour le bicarbonate de soude, précise le médecin. Je vous jure, ce n'est pas un fake. Sur les réseaux sociaux, en Grande-Bretagne, on est très très fan du bicarbonate de soude pour chasser les mauvaises odeurs. Alors oui, mais non.
Voilà, j'allais dire un drame de plus du Brexit. Peut-être.
Comment
ça.
J'enchaîne, moi.
Je suis très choquée. Allez,
avec un peu de bicarbonate.
Appelez-moi Jean-Marc Four.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four, les négociations sur le Brexit. Tiens, on en parlait, continue d'arrache-pied. Le négociateur européen Michel Barnier a fixé un nouveau deadline aux Britanniques. C'est ce soir à minuit, donc juste avant le sommet européen de la fin de la semaine. Et 15 jours avant la fameuse date butoir
le 31
du 31 octobre.
Exactement.
Mais vous nous dites, peu importe, au fond, la limite est l'issue de ces ultimes tractations. De toute façon, le Brexit a déjà commencé, c'est votre monde à l'envers.
Mais oui, au rythme où ça va, le jour où le Brexit adviendra officiellement, il aura en fait déjà eu lieu avant dans les faits. Premier point, le mirage d'une annulation du Brexit n'est plus vraiment à l'ordre du jour puisque Boris Johnson est décidé à faire sortir son pays de l'Europe coûte que coûte. Donc la seule question encore sur la table est à peu près celle-ci. Les Européens vont-ils accepter un mini-report supplémentaire style début novembre pour qu'il y ait un deal, ce fameux deal qui tourne toujours peu ou prou autour de la même question. Y aura-t-il des barrières douanières entre les deux Irlandes ou bien entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne? C'est pas un point de détail, mais l'essentiel est ailleurs. On a le sentiment que les dirigeants européens en ont désormais pris leur parti. Le Brexit aura lieu. Ils l'acceptent d'autant plus qu'ils en ont ras-le-bol des tergiversations britanniques. Et le seul fait d'en prendre son parti signifie que le processus a démarré. D'ailleurs, tous les gouvernements européens sont désormais avancés dans leurs préparatifs. Un seul exemple, l'Irlande, concerne évidemment au premier chef. Dans son collectif budgétaire présenté la semaine dernière, elle a provisionné 1 milliard d'euros pour faire face au Brexit, les 2/3 pour l'agriculture, l'industrie, le tourisme. De l'autre côté, le gouvernement britannique a déjà signé plusieurs accords de libre-échange avec des pays comme la Suisse ou la Norvège. Donc on parle bien là d'un Brexit qui a
commencer.
Sauf que la grande crainte, c'est d'abord une crainte économique.
Oui, mais là encore, c'est pareil, le Brexit a commencé depuis plusieurs mois en fait. Le chiffre le plus révélateur, c'est la baisse des investissements européens sur le sol britannique. En 6 mois, entre 9% et 18% de baisse selon les modes de calcul, mais même si on prend que la fourchette basse, c'est beaucoup. C'est particulièrement spectaculaire dans certains secteurs, par exemple on peut citer l'industrie automobile où le désengagement européen est massif. Les multinationales, les grandes entreprises, pour la plupart sont prêtes, elles ont le plus souvent, elles aussi, engagé en fait déjà le Brexit. Les entreprises britanniques d'abord, elles ont fait des stocks pour faire face à d'éventuels problèmes d'approvisionnement. Des stocks évalués au total à plus de 12 milliards d'euros, ce qui est colossal. On pense notamment aux réserves de médicaments des labos pharmaceutiques. Ces mêmes entreprises britanniques, elles ont accru leurs investissements en Europe, plus 17%, parfois en délocalisant du personnel, parfois en passant des accords spécifiques pour continuer les échanges, par exemple de nouvelles licences bancaires. Dans l'autre sens, cette fois, plusieurs entreprises étrangères présentes au Royaume-Uni ont déjà rapatrié leurs activités sur le continent. On peut citer BMW ou Goldman Sachs, retour en Allemagne, Sony aux Pays-Bas, etc. Donc là encore, le Brexit, il a déjà commencé tout simplement parce que les grandes entreprises ne veulent pas être prises au dépourvu.
Enfin, sauf qu'on garde quand même beaucoup de liens avec les voisins britanniques. Quand
oui,
même,
c'est vrai, mais même si on prend ce niveau-là sociétal, on va dire ça se distend. Par exemple, il y a beau y avoir tout un dispositif d'exemption des visas pour les expatriés européens en Grande-Bretagne, en fait, la fuite a démarré. En 6 mois, les flux migratoires en provenance de l'Union européenne ont baissé de 30% au Royaume-Uni. Sur 3 ans, ça fait 100 000 personnes en moins. Alors c'est compensé sur le sol britannique par une augmentation du nombre d'immigrants provenant de l'extérieur de l'Europe. Mais d'abord, ça pose des soucis pour certaines professions qui manquent désormais de personnel qualifié. Par exemple, c'est le cas des médecins au sein du NHS, le système de santé britannique. Et surtout, c'est très révélateur. C'est-à-dire que les Européens sont moins attirés qu'avant par le Royaume-Uni. Donc mécaniquement, ça veut dire que les liens humains reculent. L'île britannique s'éloigne du continent. C'est une sorte d'état de fait, là aussi. Les sociétés européennes, elles aussi, elles en ont pris leur partie. Goodbye Britain, hein. Même le match France-Angleterre, il n'a pas eu lieu en rugby, c'est vous dire. Non, mais on se résume. On attend le Brexit, mais en fait, il a déjà démarré. C'est un peu comme une lente procédure de divorce. À la fin, il faut finir par signer le papier devant le juge ou le notaire, mais ça fait longtemps que les deux parties ne vivent plus ensemble. Reste que c'est mieux quand même si tout le monde signe le papier, parce que sinon le no deal, le divorce, va quand même se traduire par une belle pagaille, par exemple de sacrés embouteillages à Douvres ou à Calais.
Et peut-être dans 15 jours. Donc le monde à l'envers et Jean-Marc Four, merci beaucoup. Jean-Marc, à demain, le 18-20, la suite, c'est le journal de Sébastien Paour. Et puis le téléphone sonne ensuite, ne changez rien, bonne soirée.